VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, 11h en temps universel. 6 pays occidentaux exigent le contrôle de toutes les installations pétrolières en Libye, que ces installations reviennent donc sans réserve ni délai au gouvernement d'entente nationale. Les gouvernements de l'Allemagne, de l'Espagne, des États-Unis, de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni demandent que le contrôle de ces installations pétrolières revienne sans condition préalable, sans réserve ni délai aux mains des autorités nationales légitimes du GNA. Selon cette déclaration, d'après l'AFP, ces 6 pays appellent toutes les parties à s'abstenir de tout acte d'hostilité et à éviter toute action susceptible d'endommager ou de perturber les infrastructures énergétiques de la Libye. En République centrafricaine, Jean-Francis Bozizé est finalement remis en liberté provisoire. Le fils de l'ancien président centrafricain, François Bozizé, a été libéré hier après avoir été entendu par un juge au tribunal de Bangui. Il avait été arrêté le 5 août dernier et maintenu pendant 4 jours à la SRI, la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie à Bangui. Rejoignons Freeman Sipila, notre correspondant.
Après une première audience avortée lundi, c'est finalement tard dans la soirée du mardi que Jean-Francis Bozizé a été auditionné par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bangui. Après avoir pris connaissance des charges qui pèsent contre lui, l'ancien ministre délégué de la Défense sous le règne de son père François Bozizé est autorisé à recouvrer provisoirement sa liberté. Jean-Louis Opalayan, un de ses avocats, qualifie d'un dossier vide les faits reprochés à son client.
Il doit attendre une convocation et on reviendra plus tard pour qu'il puisse donner sa version des faits qu'on lui reproche par rapport aux infractions dont la teneur lui a été donnée. Et il a sa version des faits qu'il n'a pas donnée aujourd'hui. Il s'est réservé de le faire dans les jours à venir. Pour le moment, je peux dire que c'est un dossier qui est vide.
Placé sous contrôle judiciaire, Jean-Francis Bozizé est interdit de toute sortie de la capitale centrafricaine. Il est privé de ses libertés fondamentales et devra s'exempter de porter une arme. Tout comme son père, il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour assassinat, arrestation arbitraire, séquestration, détournement des deniers publics et actes de nature à compromettre la paix publique. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Tchad, au lendemain de l'investiture d'Idriss Déby Itno, le chef de l'opposition, Salé Kebzabo, a été entendu comme témoin par la police judiciaire dans l'affaire des militaires disparus. Le procureur l'avait déjà convoqué 2 semaines auparavant, mais ses avocats avaient contesté la procédure étant donné l'immunité parlementaire dont bénéficiait M. Kebzabo. Celle-ci a donc été levée pour le besoin de l'enquête. Nathalie Barge a joint Salé Kebzabo hier.
Honoré d'être la première personne qui a été reçue par la police judiciaire pour inaugurer le quinquennat de Idriss Déby. Et donc voilà, je suis resté là-bas quelques temps avec eux. Ils m'ont posé toute une série de questions auxquelles j'ai répondu, d'autres auxquelles je n'ai pas répondu. Et je pense qu'ils vont faire un rapport au procureur qui appréciera certainement dans les jours qui viennent, très rapidement. Lorsqu'un homme politique fait l'objet d'interpellations de quelque genre que ce soit, il est difficile de ne pas y voir un caractère politique. Mais toujours est-il que moi, je pense, comme je l'ai dit à la police judiciaire, cette affaire date de la période électorale et post-électorale immédiate. Et je pense qu'aujourd'hui, vouloir remuer le couteau dans la plaie ressemblerait tout au moins à une sorte de provocation politique ou tout au plus à une sorte de règlement politique, règlement de compte, bien entendu. Là, je ne suis pas témoin, je ne suis pas militaire. Il faut demander au chef suprême des armées qui est Déby lui-même, puisque Déby a dû signer un décret pour démettre le secrétaire-major de l'armée de l'air et son adjoint immédiatement après ce vote, parce qu'il était établi qu'à l'armée de l'air, on a voté contre Déby. Nous avons battu Déby. Donc, c'est une affaire qui vient de très loin. Je souhaite beaucoup de courage, comme je l'ai dit au procureur.
Parlons du FONAC, M. Kebzabo. Je crois qu'il y a eu 3 défections. Pourriez-vous nous en parler? Pourquoi ces défections?
Il y a 3 défections. Je pense qu'il doit y avoir 23 parties qui sont restées. Dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, on aura d'autres adhésions. Donc, je pense que 3 défections, si c'est vraiment 3, ce n'est pas important. Il faut voir ceux qui restent, qui vont faire un grand travail dans l'entente, dans la détermination, plutôt que de voir les chevaux qui ont abandonné la course au bout de quelques tours de piste.
Mais comment vous expliquez le fait que Gali Ngote Gata ait quitté votre plateforme?
Je ne sais même pas d'ailleurs si Kali a fait défection, parce qu'on nous a dit qu'à son retour, il y aurait un débat sur la question, mais nous l'attendons pour en discuter. En tout état de cause, nous espérons tout simplement que les autres groupements tiendront le coup pour qu'ensemble, demain, on mène une lutte implacable contre ce système que nous combattons depuis longtemps.
Et vous pensez que c'est possible que Idriss Déby puisse accepter une rencontre, un dialogue national d'égal à égal?
Le bon sens et l'amour de la patrie devraient l'y conduire. Et je crois que dans l'intérêt de son pays, s'il aime réellement le Tchad, il va s'asseoir avec les autres Tchadiens pour discuter de l'avenir de leur pays et voir ensemble qu'est-ce qu'il est bon de faire pour que notre pays ne soit pas définitivement dans le chaos.
L'opposant tchadien Saleh Kebzabo joint à N'Djamena. Ida Sower, indésirable à Kinshasa, la chercheuse principale de Human Rights Watch en RDC, a vu son visa révoqué. Anneke van Woudenberg, la directrice du plaidoyer auprès de la division Afrique de cette organisation, accuse le pouvoir congolais de vouloir museler les défenseurs des droits de l'homme ainsi que tous ceux qui s'opposent au prolongement du mandat présidentiel de Joseph Kabila.
Ce n'est pas une question d'un visa qui est expiré, comme ils ont fait avec des activistes congolais. Maintenant, ils sont en train d'expulser ou de forcer des activistes des droits de l'homme internationaux de quitter le pays aussi et de ne pas parler de la situation des droits humains au Congo. Parce que Mme Sawyer n'est pas la première. En fait, l'année passée, ils ont expulsé le directeur des droits humains de la Nations Unies, M. Scott Campbell. Il y a quelques mois, ils ont expulsé un autre chercheur qui aussi a documenté plusieurs violations des droits de l'homme, M. Jason Stearns. Le mois passé, ils ont expulsé deux activistes de l'ONG Global Witness. Donc, ce n'est pas seulement Human Rights Watch qui est ciblé.
Anneke van Woudenberg. Human Rights Watch a demandé aujourd'hui au gouvernement angolais d'enquêter sur la mort samedi d'un adolescent de 14 ans abattu par des militaires. Selon l'Organisation de défense des droits de l'homme, Rufino Antonio, un adolescent de 14 ans, a été mortellement touché au cou par une balle alors qu'il manifestait contre la démolition du quartier populaire de Zango dans la banlieue de Luanda pour la construction d'une zone industrielle.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, les médias russes ont salué comme une avancée majeure la visite en Russie du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a rencontré hier son homologue russe Vladimir Poutine après des mois de crise. Cette rencontre a permis aux deux dirigeants de tourner une page tragique, écrit le quotidien pro-Kremlin Yves Evstia, qui note que ni Vladimir Poutine ni son homologue turc n'ont évoqué le bombardier russe abattu par l'aviation turque au-dessus de la frontière syrienne en novembre, élément déclencheur de la crise entre les deux pays. 11 nouveaux nés ont péri aujourd'hui avant l'aube dans un incendie provoqué par un court-circuit dans l'un des plus grands hôpitaux de la capitale irakienne, Bagdad. Selon des sources médicales et sécuritaires, le porte-parole du ministère de la Santé a précisé que l'incendie avait été provoqué par un court-circuit. La coalition arabe commandée par l'Arabie saoudite a lancé aujourd'hui de nouveaux raids contre les rebelles au Yémen et a annoncé avoir intercepté deux missiles balistiques tirés depuis ce pays au lendemain de l'intensification des attaques aériennes et des combats. L'ONU et l'Iran se sont alarmés de la reprise des raids et des combats à grande échelle. L'ONU a suspendu samedi dernier les pourparlers de paix après 3 mois de discussions infructueuses. L'organisation table sur une reprise des pourparlers dans un mois et refuse de parler d'échec, mais les partis campent sur leur position. Le gouvernement insiste sur un retrait des rebelles des grandes villes dont Sanaa. Les Houthis et leurs alliés exigent de participer immédiatement à un gouvernement d'union nationale. La guerre au Yémen, je le rappelle, a fait plus de 6 400 morts et environ 30 000 blessés, sans parler des 2,8 millions de personnes déplacées. Les autorités électorales du Venezuela ont dévoilé hier un calendrier qui rend quasi impossible la tenue en 2016 d'un référendum révocatoire contre l'impopulaire président Nicolas Maduro, évitant au Parti socialiste au pouvoir d'éventuelles élections anticipées. La dernière étape nécessaire avant d'organiser le référendum, c'est-à-dire la collecte de 4 millions de signatures en 3 jours. Et puis, du sport pour terminer, les Jeux olympiques au lendemain de l'exploit XXL de Michael Phelps dans les bassins brésiliens. Une 60aine de médailles seront distribuées aujourd'hui aux Jeux de Rio, notamment sur 100 mètres nage libre, un festin de roi qui captivera la planète entière, à l'exception des Brésiliens qui qui sont eux obsédés par leur équipe de foot au bord de l'élimination. Les JO ont offert hier ce qu'ils avaient de plus beau, un roi indétrônable, présent depuis des lustres et jamais rassasié. Un de ceux qui écrivent la légende, Michael Phelps, âgé de 31 ans, a conquis ses 24e et 25e médailles olympiques.
Sur VOA Afrique.